Bonjour et bienvenue sur Mediapart. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Marianne Matar-Bonucci, qui est historienne à Paris 8 et qui vient de sortir cette année cet ouvrage Totalitarisme fasciste et c'est au CNRS Édition. Bonjour.
Bonjour.
Alors, totalitarisme fasciste, c'est un titre quasiment manifeste. Parce que le fascisme italien, dont vous traitez en réalité dans ce livre, a souvent été traité un peu différemment du nazisme ou des autres totalitarismes, dont le stalinisme notamment. Et la célèbre philosophe Hannah Arendt avait dénié le caractère totalitaire du fascisme italien. Donc pourquoi faire ce livre pour affirmer aujourd'hui, en 2018, le caractère totalitaire du fascisme italien?
Alors, en fait, c'est une question autour de laquelle mes travaux ont beaucoup tourné donc depuis plusieurs années. C'est un débat qui traverse l'historiographie italienne. Comme vous l'avez rappelé, tous les débats qu'il y a eu autour du totalitarisme en général avaient plutôt tendance à exclure l'Italie de la catégorie des régimes totalitaires, ce qui pouvait sembler paradoxal puisque le mot est né en Italie, en fait. Alors, c'est une histoire un peu étrange parce qu'il est né d'abord dans l'opposition antifasciste pour dénoncer précisément le caractère liberticide de ce régime. Et ensuite, il a été repris par le fascisme dans un sens positif pour caractériser effectivement ce qu'était son projet politique.
D'accord, donc il revendiquait le
Il le
terme de totalitaire.
revendiquait, absolument, il le revendiquait. Et c'est un fait que quand on va voir d'assez près un certain nombre de domaines de la vie quotidienne ou de la vie culturelle, on observe, me semble-t-il, cette tentation totalitaire, c'est-à-dire cette volonté d'exercer un contrôle absolu, non seulement sur la société, mais sur les esprits et même sur les caractères des individus. Alors, le débat n'est pas nouveau. Renzo De Felice, qui était un des grands historiens du fascisme, l'avait lancé dès les années 70. Emilio Gentile, dont une partie de l'œuvre a été traduite en français, a beaucoup insisté sur cette dimension totalitaire. Et c'est un fait que, en travaillant donc sur différents aspects de ce régime, j'ai pu observer aussi que le projet était bien là. Alors, il n'a peut-être pas totalement abouti, mais en tout cas, cette volonté d'exercer un contrôle, encore une fois, total et de changer en profondeur la société au moyen de la violence, eh bien, on le trouve, en effet, dès le milieu des années 20 jusqu'à la fin du régime.
Alors, on va y venir avec des exemples très concrets. Pour prolonger ma question,
Oui.
est-ce que cette volonté-là de réaffirmer ce caractère totalitaire, il ne vient pas aussi en réaction à une forme de révisionnisme, de relativisation qu'il y a eu dans l'espace politique italien, notamment dans les années Berlusconi, où on a
Oui.
un peu relativisé la période fasciste?
Tout à fait. Alors, ce processus, en effet, à la fois de banalisation et de relativisation est intervenu pratiquement dès l'après-guerre, sauf que l'Italie républicaine s'est quand même construite sur la mémoire et sur les valeurs donc de l'antifascisme. Et il y avait comme une forme de tabou. D'ailleurs, la Constitution italienne interdisait en théorie la reconstitution d'un parti fasciste. Et donc, il y avait comme une forme de tabou dans le débat public à bien évidemment faire l'apologie du fascisme ou simplement en minimiser donc certains aspects parmi les plus graves, les plus répressifs. Et Berlusconi, une fois au pouvoir, a en effet contribué parce qu'il a fait rentrer au gouvernement des gens qui venaient de cette famille politique de l'extrême droite italienne et parce que lui-même a fait tout un tas de déclarations où il expliquait que, par exemple, les îles où on envoie les opposants antifascistes, finalement, c'était des lieux qui n'étaient pas si désagréables que cela, ou en faisant des plaisanteries. Eh bien, il a contribué à donner cette image buonista, comme on dit en italien, c'est-à-dire une image d'un fascisme bon enfant. Or, ce sur quoi je voulais insister, en effet, même s'il est évident qu'il n'y a pas, comme dans le cas du national-socialisme, de projets génocidaires, exterminateurs. Il n'y a pas non plus de crimes de masse dans des proportions comparables à, au régime stalinien. Mais ce régime est un régime qui fait l'exaltation, qui exalte véritablement la violence et qui a des valeurs, donc qui sont des valeurs directement héritées de ce que les historiens ont appelé la culture de guerre. Et donc la guerre est présente dans l'imaginaire du fascisme et dans ce totalitarisme fasciste, donc qui est tout sauf un fascisme d'opérette, sauf un fascisme bon enfant.
Alors, je rebondis sur ce que vous venez de dire, sur la centralité de la violence dans le discours, dans la pratique fasciste, que vous documentez à travers plusieurs exemples. On peut pas tout couvrir, on va en prendre un premier, qui est celui de la marche sur Rome. C'est un épisode important, c'est fin octobre 1922, et c'est à travers cette marche de milices fascistes, donc qui se rendent à Rome, et c'est à travers cet épisode-là que Mussolini accède au pouvoir de façon légale, puisque le roi l'invite à devenir Premier ministre ou président du Conseil, je ne sais plus comment on dit. Alors certains, justement, ont dit bah c'était une démonstration de force assez peu probante. Finalement, le régime a pris peur, ils auraient pu l'éviter. Et puis d'autres, comme Emilio Gentile, l'historien que vous avez cité tout à l'heure, qui a fait un livre qui s'appelle « Soudain, le fascisme ». Lui, au contraire, il dit cette marche, non, c'était pas une marche d'opérette, c'était la matrice d'un régime totalitaire et fasciste. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode et surtout son contexte de violence ?
Tout à fait. Alors, la marche sur Rome donc se déroule à la fin du mois d'octobre 1922. Elle a été décidée et organisée en amont par le parti fasciste. Mais, si vous voulez, il y a un peu de vrai dans ces thèses-là, parce que c'est vrai que d'un point de vue militaire, si le régime avait voulu et si le roi avait décidé d'envoyer l'armée, il était tout à fait possible de réprimer cette gigantesque manifestation, parce que c'était finalement cela, de colonnes fascistes donc qui convergeaient vers la capitale. Donc la menace sur le plan militaire n'était pas considérable, mais parallèlement à la marche sur Rome, il y a eu toute une série de petits coups de force partout dans l'Italie qui venaient en fait couronner un processus qui était à l'œuvre pratiquement depuis 2 ans. Et donc la marche sur Rome, c'est finalement le point d'aboutissement, le point d'orgue d'un processus de violence extrême, de destruction systématique des syndicats, des partis de gauche, des cercles de sociabilité ouvriers et paysans, qui est intervenu donc à partir de 1920-1921. C'est-à-dire que pendant 2 ans, l'Italie a vécu une situation de guerre civile, véritablement.
Oui, on estime des gens tabassés, tués.
Des gens tabassés, tués, des rites également d'exposition de la violence. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais j'essaye de décrire cela dans le livre. Et encore une fois, la marche sur Rome, donc, c'est le dénouement. C'est le dénouement de toute cette affaire. Donc, on peut dire, d'un point de vue militaire, c'est pas grand-chose, mais en même temps, il faut la considérer avec tout ce qui s'est passé donc avant. Et c'est une pression violente qui s'exerce donc sur le roi et qui va faire en sorte que le roi appelle Mussolini à former le gouvernement, alors qu'il a déjà des représentants au Parlement, mais ce n'est pas le parti majoritaire à l'époque. Donc cela va à l'encontre de la tradition parlementaire italienne.
Alors on va voir à l'image des photos de deux endroits, le Temple des Martyrs, une grande exposition à Rome qui célèbre la marche sur Rome 10 ans plus tard, et puis la crypte des martyrs fascistes, des martyrs donc qui seraient tombés dans cette marche sur Rome. Donc ça veut dire que le régime a vraiment quasiment muséifié cet épisode-là, il en a fait son point d'origine.
Tout à fait. Alors, si on suit la propagande fasciste, la marche sur Rome, c'est une révolution, c'est le triomphe d'une révolution, donc, et le dénouement, donc, de ce mouvement en profondeur. C'est moins que cela, parce que les gens s'y attendaient et parce qu'encore une fois, il était tout à fait possible d'empêcher l'arrivée au pouvoir du fascisme. Mais à ce moment-là, le fascisme, paradoxalement, est vu comme un parti d'ordre, le parti qui effectivement a réussi à réprimer un très vaste mouvement social qui est intervenu dans l'Italie d'après-guerre, avec des occupations d'usines, avec des occupations de terres. Et donc, une partie des élites apporte son soutien à l'arrivée donc du fascisme au pouvoir en se disant, voilà, il va falloir cette parenthèse un peu musclée, un peu répressive, et ensuite on reviendra à la démocratie. Mais là, c'est pas comprendre donc ce qu'est le projet de Mussolini, qui va bien au-delà, encore une fois, d'une simple pratique un peu musclée donc du pouvoir. Alors la mort est très présente. Je disais que le fascisme était l'héritier de la culture de guerre, donc, et je crois que là il y a une transmission déjà directe, hein, qui est liée quand même à l'expérience de la Grande Guerre. Beaucoup des figures historiques du fascisme, à commencer d'ailleurs par Mussolini lui-même, ont fait la guerre, ont parfois été blessés pendant la guerre. Et il faut savoir que parmi les cadres du fascisme, on retrouve ceux qu'on appelait les arditi pendant la Grande Guerre, qui étaient les troupes de choc, en quelque sorte, ceux qui allaient vraiment à l'affrontement, au corps à corps, donc sur le front ou dans les tranchées. Et donc, la culture des arditi consistait déjà à exalter la mort. Ils avaient un drapeau avec une tête de mort, et le fasciste va hériter donc tous ces symboles qui sont des symboles de combat où la mort héroïque est exaltée. Et avec la marche sur Rome et avec cette période de guerre civile, les fascistes ont eu effectivement des victimes, hein, puisque souvent il y a eu donc des affrontements, même si on estime que 3/4 des victimes de cette guerre civile sont dans le camp donc des démocrates et des antifascistes. Et donc ils vont effectivement exalter ces fascistes tombés au combat, donc et victimes, je reprends les termes, de la barbarie bolchévique, donc, et en faire des figures légendaires, mythiques.
Alors, la guerre et la mort, on le retrouve dans un autre épisode de violence moins connu. En tout cas des Français, qui est la guerre d'Éthiopie que Mussolini lance en 1935. Et dans le livre, vous écrivez que la guerre d'Éthiopie n'était pas une guerre coloniale ordinaire comme les autres puissances françaises, britanniques, les accomplissaient à l'époque ou dans les décennies qui avaient précédé. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette conquête de l'Éthiopie ? Pourquoi la violence a cette dimension totalitaire qu'elle n'a pas quand la France est allée conquérir l'Algérie ou d'autres pays?
Alors, ce n'est pas tant dans la pratique que dans le discours qu'il y a effectivement sur ces atrocités. Des atrocités sont commises en Éthiopie. Les gaz sont utilisés donc pour lutter contre les troupes éthiopiennes. Des villages entiers sont massacrés. Des prêtres coptes sont massacrés aussi. Enfin, c'est une guerre qui est quand même terrible, effectivement. Mais j'ai travaillé dans les archives de Graziani, donc qui était l'un des maîtres d'œuvre de la conquête. Et c'est assez frappant de voir comment il y a le rêve, si on peut parler de rêve pour des choses aussi atroces, qui est à l'œuvre de forger un nouveau type de combattant, un nouveau type de soldat, qui ne se laisserait en rien émouvoir et qui serait capable justement d'avoir recours à la violence avec fierté, sans aucun état d'âme. Hein, on trouve explicitement dans les archives des commentaires de ce type-là, des exemples aussi de militaires, d'officiers qui sont réprimandés parce qu'ils ont essayé d'avoir un comportement humain avec les populations civiles notamment. Et cela est sanctionné parce que considéré comme n'étant pas une attitude fasciste.
Et est-ce que justement le propre du totalitarisme, comme une certaine école le dit, c'est pas simplement le niveau de violence parfois extrême qui est employé, mais plutôt ce projet-là de faire un homme nouveau, ce que certains appellent une révolution anthropologique en termes savants, c'est ça le...
Tout à fait. La singularité du totalitarisme, c'est ce projet de révolution anthropologique, c'est cette eschatologie qui vise effectivement à fabriquer un nouveau type d'humanité. Alors, je dirais que le parallèle peut s'arrêter là parce que les projets ne sont pas les mêmes. Il y a une idéologie qui se veut une idéologie héritière des Lumières et
dans le cas
de l'URSS et du communisme, donc qui favoriserait le bonheur, l'égalité entre les hommes, alors que dans le cas du fascisme et d'ailleurs du national-socialisme, le bonheur n'est absolument pas une préoccupation. Les valeurs qui sont privilégiées, c'est l'ordre, c'est la hiérarchie. C'est la force, c'est l'obéissance. Et je crois vraiment, Dieu sait que le stalinisme a eu recours à la violence à grande échelle, mais la violence dans la philosophie marxiste est considérée comme un moyen, mais pas comme une fin. Or, il y a chez Mussolini et chez certains fascistes cette idée que l'homme nouveau fasciste est celui, encore une fois, qui est capable donc perpétrer certaines formes de violence sans état d'âme et qui est capable aussi de se défaire justement d'une tradition humaniste, catholique. Et d'ailleurs, à la fin du fascisme, Mussolini considéra qu'il a échoué du fait de l'Église, du fait du catholicisme, qui a fait au fond des Italiens un peuple de moutons, pour reprendre la terminologie de l'époque, et non un peuple de lions, de guerriers.
Ouais, donc, l'Église avec laquelle il s'était allié pour les
L'Église avec laquelle, par ailleurs, en effet, le régime a pactisé.
On va voir à l'image un portrait stylisé du Duce, donc avec ses traits très très marqués, très droits, verticaux, horizontaux, on a l'impression que son visage est moulé dans l'acier. Ça, c'est l'imagerie qui illustre ce que vous venez de nous dire.
Tout à fait. Ça, c'est, je dirais, le masque de l'idéal type de l'homme nouveau fasciste, donc, qui est un portrait intéressant, donc, qu'on trouve dans la publication qui était destinée aux fasci all'estero, c'est-à-dire aux mouvements fascistes à l'étranger. Donc, et c'est aussi intéressant parce que, en même temps, on voit, à travers cette représentation un peu futuriste, donc, du dictateur, qu'il y avait une certaine liberté, sur le plan stylistique et esthétique dans le fascisme italien, qui n'existait pas dans le national-socialisme. Et de ce point de vue-là, il y a une différence.
Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle d'un exemple, peut-être moins violent et moins atroce, de ce remodelage de la société et de l'homme, parce que ça touche la langue, le vocabulaire. Et c'est donc ce que vous racontez dans un chapitre sur l'ambition de supprimer le « lei », qui est un pronom qui servait qui sert à des formules de politesse. Donc, le régime a voulu le supprimer. Alors, on va voir à l'écran un exemple d'affiches de propagande de l'époque où le « lei » effectivement est décrit comme un vestige servile et proxénète.
Oui, alors c'est assez intéressant parce que l'année 1938 est l'année qui voit l'adoption des lois anti-juives, des lois antisémites, et c'est aussi l'année où Mussolini lance tout un tas de réformes qui visent à transformer le style des Italiens, car il estime que ce style est un style justement trop bourgeois, trop lié à l'ancien régime qu'il cherche donc encore une fois à abolir. Donc, parmi ces réformes, donc il y a celle qui concerne le lei. Alors un jour germe dans l'esprit d'un érudit italien l'idée, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les intellectuels dans ce climat font une forme de surenchère. Chacun y va de son idée géniale pour précisément tenter donc de changer le style. Et il y a quelqu'un qui a l'idée de supprimer l'usage du pronom « lei ». Donc, le « lei », c'est à la fois « il » ou « elle » en italien, et c'est aussi une formule qui est l'équivalent du « vous ». chez nous, c'est-à-dire du vouvoiement donc de politesse, mais qui suppose quand on l'emploie d'utiliser la troisième personne. Donc, et ce pronom lei est un pronom qui n'est pas très populaire en Italie. D'ailleurs, les Italiens tutoient très facilement, beaucoup plus facilement que nous, parce que ce lei impose justement certaines lourdeurs hein, dans la langue. Alors l'intellectuel en question, qui s'appelle Bruno Cicognani, qui est un linguiste, explique que le lei est un pronom servile parce que c'est la forme avec laquelle une servante s'adresse donc à son maître ou à sa maîtresse. Et d'autres arguments sont donnés en expliquant, parce qu'il a une formule similaire en espagnol, que c'est probablement un usage qui est l'héritage de l'époque où l'Italie, dans le sud, était sous domination espagnole. Alors, l'idée est jugée bonne, et à partir de là, tout un tas de règlements sont adoptés au niveau du parti fasciste, au niveau des administrations, pour essayer de proscrire l'usage donc du lei et de prescrire l'usage du tu ou du vous selon un certain nombre de situations et de circonstances. Donc ça crée
C'est une boîte de Pandore là.
Voilà, c'est la boîte de Pandore. Ça crée des situations qui sont gaguesques hein, le plus souvent parce que les administrations se mettent à produire de la norme pour dire à tel échelon il faut employer le tu, à tel autre il faut employer le vous. Et ça suscite aussi beaucoup d'hilarité parmi les Italiens qui inventent donc toutes sortes de plaisanteries pour se moquer donc de la réforme, comme par exemple à Galilée, donc en italien c'est Galileo Galilei, et certains disent ah maintenant il va falloir donc dire Galileo Galivoi, et on a des procès-verbaux qui retranscrivent la colère de Mussolini qui ne supporte pas donc qu'on puisse tourner cette réforme en dérision.
On avance dans cet entretien, il y a une question que je tenais à poser quand même parce que c'est un autre fait moins connu, notamment du public français, sur les persécutions antisémites des fascistes italiens qui ont eu lieu, alors que à l'origine, contrairement au nazisme, l'imaginaire antisémite, raciste, biologique n'existe pas dans le fascisme italien. Et puis il y a un tournant, notamment vers 1938. Où donc sont mises en œuvre un certain nombre de persécutions à l'égard des juifs. Et j'ai l'impression à vous lire, vous allez me développer ou me corriger, que c'est pas tant sous la contrainte des nazis que Mussolini se livre à ça, mais plutôt par une sorte d'effet d'imitation, d'émulation aussi.
Alors, effectivement, donc en 38, après plus de 15 années donc au cours desquelles les Juifs étaient considérés comme des citoyens comme les autres, ils étaient membres pour certains d'entre eux du parti fasciste, même en proportion il y avait plus de Juifs au sein du parti fasciste que de non-Juifs, parce que le niveau de la population, pour toute une série de raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais que j'explique un peu dans le livre. Donc Mussolini décide effectivement donc d'adopter des lois qui seront d'une gravité comparable aux lois de Nuremberg ou aux mesures qui seront adoptées ensuite par le régime de Vichy, hein, c'est-à-dire exclusion professionnelle. Il y a même une interdiction des mariages mixtes en Italie, ce que Vichy ne fera pas, exclusion des écoles. Donc ce sont des lois très lourdes hein, qui font des juifs des parias. Alors comment comprendre cela ? D'abord, je crois que le contexte est très important. La décision est probablement prise en 1937, c'est-à-dire à un moment de pause, de stase, en quelque sorte, dans cette dynamique totalitaire du régime. Et là, le concept de totalitarisme nous aide vraiment à penser cet événement qui marque en effet une rupture dans l'histoire donc du fascisme. Pourquoi ? Parce que, alors, Hannah Arendt, qui a dit aussi des choses très justes, elle se trompe sur l'Italie, mais elle a bien parlé du totalitarisme, a dit notamment que c'est un régime qui avait besoin constamment de mouvement. Hein, c'est un peu comme le cycliste qui, s'il ne pédale pas, tombe de sa bicyclette, eh bien ces régimes ont besoin d'alimenter sans arrêt la machine répressive, la machine propagandiste et la machine à produire de la norme. Et donc en 37, quelle est la situation? La guerre d'Éthiopie, qui avait été un moment de grand enthousiasme, est terminée. L'Italie commence à penser qu'il va falloir se retirer de l'Espagne où elle s'est engagée, et il n'y a plus d'ennemis politiques à combattre, puisqu'ils sont tous soit en exil, soit en prison. Hein. On a d'abord persécuté les socialistes, les communistes, les démocrates. Et donc, le seul ennemi possible qui apparaît à ce moment-là, ce sont les Juifs. Alors, le contexte est important. Je ne parlerai pas d'imitation, mais plus d'une forme de conformisme. Parce que, à partir de 1935, donc, il est devenu très difficile en Europe, moment de montée en puissance des nationalismes et des mouvements plus ou moins proches du fascisme, il est devenu très difficile d'être nationaliste sans être antisémite. Hein, de ce point de vue-là, effectivement, l'Allemagne a eu un effet de diffusion. Et donc, je dirais, le contexte est très important. Un contexte qui est un contexte propre au fascisme, avec ce mouvement donc de radicalisation permanente, et un contexte international où il devient très difficile, encore une fois, d'être un leader d'extrême droite nationaliste si on n'est pas antisémite. Tellement l'antisémitisme, effectivement, grâce notamment à l'Allemagne, mais pas seulement, s'est diffusé partout en Europe, donc dans cette deuxième moitié des années 30.
Alors, je vais vous poser la dernière question de cet entretien. Je fais un bond un peu risqué dans la période contemporaine, puisque tous ceux qui suivent Mediapart et qui s'informent de manière générale ont vu un nouveau gouvernement en Italie, avec notamment le fameux Matteo Salvini, qui est de la Ligue du Nord, un parti de droite radicale. Et Salvini est devenu le ministre de l'Intérieur. Il a une politique qu'on peut qualifier assez tranquillement de xénophobe et d'anti-migrant. Et beaucoup parle de retour du fascisme ou sont tentés de le décrire comme un fasciste. Mais justement, quand on lit votre livre, qu'on parle des niveaux de violence qui étaient atteints, de cette volonté de créer un homme nouveau, de cette dynamique antisémite, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça le mot qu'il faut employer? Et là, c'est vraiment une question à l'historienne et peut-être à la femme de conviction, c'est comment on fait pour pas euphémiser certaines politiques actuelles, certains mouvements actuels qui sont évidemment des dangers pour les libertés, sans non plus travestir l'histoire et utiliser une mémoire à mauvais escient. Comment est-ce qu'on arrive à
cheminer ? Je crois que la réponse est un peu dans votre question, en effet. C'est-à-dire que je crois que c'est très important de nommer correctement les choses et qu'il n'y a pas besoin de dire, pour le moment en tout cas, parce que les choses peuvent évoluer, je suis très inquiète sur la situation italienne, hein, mais Salvini n'est pas un fasciste à proprement parler, c'est un homme d'extrême droite, xénophobe, indéniablement, dont les alliés peuvent être des héritiers du fascisme. C'est le cas de Fratelli d'Italia, qui était un des trois partis de la coalition avec Berlusconi d'ailleurs. Et il représente indéniablement un danger pour la démocratie. Mais je crois qu'on peut dire tout ça sans crier immédiatement aux fascistes, parce que ils ont été portés au pouvoir par des électeurs cependant. Le cadre démocratique existe toujours en Italie. Il y a probablement un rêve de pratique autoritaire du pouvoir qui va peut-être effectivement intervenir. Mais il y a d'authentiques porte-paroles du fascisme. Le mouvement donc qui était allié avec Salvini, et Casa Pound, qui est un mouvement assez inquiétant, je trouve, puisque là, ils s'inscrivent beaucoup plus directement dans l'héritage idéologique du fascisme, avec une compréhension qui manque peut-être à Salvini des enjeux sociaux du moment. Parce que ce que j'essaye aussi d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y avait plusieurs âmes dans le fascisme italien. Une âme conservatrice, réactionnaire, qui a gouverné in fine dans le sens donc des intérêts de la bourgeoisie et des, de ce qu'on appelait à une certaine époque le grand capital. Et il y avait aussi une âme révolutionnaire minoritaire. Oui, et Casa Pound, dans le premier fascisme, et Casa Pound essaie justement de se relier, si vous voulez, à cette sensibilité-là, et donc met en place un peu partout des politiques sociales en faveur du logement, en faveur de revenus minimums, etc., qui peuvent avoir prise sur des populations qui sont dans une situation de grande précarité. Oui. Donc, pour trouver un mot de la fin, si vous voulez, je suis inquiète indéniablement sur l'évolution des choses en Italie. Je pense que l'Europe peut être un rempart, mais à condition que l'on prenne en compte le besoin de vraies politiques sociales qui font singulièrement défaut aujourd'hui en Europe.
Je vous remercie, Marie-Anne Matin-Bonucci, et donc je rappelle le titre de votre livre, Totalitarisme fasciste au CNRS édition. Merci de nous avoir suivis, et puis rendez-vous sur Mediapart et sur notre chaîne YouTube pour retrouver tous les contenus vidéo du journal.